して。
Et si les vibrations des sons nous aidaient à nous sentir mieux ? Pour en parler, je vous emmène au pied du Mont Ventoux à Mormoiron, dans le cabinet d'Emmanuel Le Carreau, sonothérapeute et kinésiologue. Après Émilie Couette qui m'expliquait il y a quelques mois que pour elle, les sons pouvaient être méditatifs, j'ai eu envie de creuser cette idée. J'ai donc participé à des bains de sons organisés par Emmanuel, séances de relaxation en groupe où l'on s'allonge, on se détend et on se focalise sur les vibrations des instruments et de la voix jouée par Emmanuel en improvisation. Une sensation particulière qui reste même après l'atelier. Ouvrez donc vos oreilles, Emmanuel et sa voix douce nous expliquent son parcours et comment les sons peuvent aider à réharmoniser notre corps et notre esprit. Bonne écoute!
Je m'appelle Emmanuel Le Carreau, je suis thérapeute et j'ai centré mon accompagnement thérapeutique avec deux outils, la kinésiologie et la sonologie. La kinésiologie, c'est une méthode qui part sur le principe qu'on a une intelligence innée du corps qui enregistre en fait tout ce qu'on vit depuis qu'on a été conçu jusqu'à maintenant, et qu'on peut avoir accès à cette mémoire corporelle en utilisant des tests musculaires. Moi, je suis comme un traducteur en fait entre le corps et la personne. Alors, la sonologie, c'est une méthode qui utilise l'écoute auditive mais aussi corporelle des sons et des vibrations pour amener la personne à se réharmoniser. Moi j'aime bien l'idée de l'accordeur. On a tous une fréquence vibratoire unique, notre note fondamentale, moi je l'appelle notre fréquence natale, et en fonction de ce que nous vivons dans la vie, on peut se désaccorder et commencer à vibrer sur une note qui n'est pas la nôtre fondamentalement, mais qui est peut-être une note plus acceptée par notre famille, par la personne que nous aimons, par nos enfants, par la société. Enfin, on peut se désorganiser sur beaucoup de plans. Et nous, en tant que sonologue, on va envoyer des fréquences et des vibrations pour que le corps, petit à petit, vienne se réinstaller sur sa fréquence vibratoire. Et on parle de sons et de vibrations. Alors, les sons, c'est les sons audibles. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les vibrations. Les vibrations, c'est ce qu'on ne perçoit pas forcément par les oreilles, mais par la perception du corps. Et il y a quelqu'un qui est très inspirant, qui s'appelle Dr Tomatis, qui disait que le corps est une croix d'oreille. Alors moi, je dis plutôt une peau de tambour. Le son, pour moi, c'est une texture. C'est vraiment une matière qui sort de nous, qui se met en vibration autour, et on peut tisser avec la texture de l'autre et monter comme ça des harmoniques. D'entrer en résonance vraiment avec cette vibration corporelle, de me mettre à l'écoute de ce qui se passe pour la personne et de quel instrument ou de quel son de ma voix chantée, cette personne aurait besoin. Je fais partie des gens qui ont eu plusieurs vies professionnelles, qui se sont découverts au fur et à mesure en fait de leur vie. Pour moi, c'est mes enfants, c'est la maternité, le fait d'avoir la responsabilité d'élever des êtres qui m'ont dit « Mais en fait, toi, t'es qui ? Et qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Et comment tu veux les éduquer ? Et est-ce que t'es bien ?» Et voilà, donc pour moi, la porte d'entrée, ça a été vraiment la parentalité. Et d'avoir rencontré des personnes qui m'ont donné des informations que j'ai su entendre. Voilà, donc c'est vraiment un cheminement qui s'est fait par étapes. C'est un chemin de révélation, en fait, et qui se fait au travers de la vie. J'ai choisi, après mon bac, de me former en biologie. Donc j'ai étudié, en fait, comment la vie se déploie dans la cellule, et en particulier dans les végétaux et dans les arbres. Donc c'est la structure de l'ADN, du plus profond, du noyau, la magie de la vie, mais dans la biologie, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai continué jusqu'à un DEA en recherche. Et puis moi, je suis quelqu'un de fondamentalement, j'aime l'échange, j'aime le partage. Et toute seule devant ma paillasse en train d'extraire de l'ADN de champignons, là, ça m'a pas convenu à un moment donné. Donc j'ai cherché autre chose et je me suis dirigée vers une école d'ingénieur en horticulture, spécialisée en semences. Donc là aussi, ben, l'idée du début, du tout petit, mais il y a tout dedans pour exprimer la vie. Et j'ai travaillé quelque temps en expérimentation dans les légumes, en melon, et aussi en conseil technique auprès d'agriculteurs. Et j'ai fait aussi du ingénieur qualité, enfin voilà, mais rapidement, je faisais parce que c'était l'aboutissement de tout mon parcours, mais il manquait quelque chose qui ne me convenait pas. J'avais repris la danse, ça me nourrissait aussi, tout ça, mais ça ne me convenait pas. Et ma dernière expérience professionnelle, pour la première fois, ce que je proposais à la direction ne convenait pas. C'est la première fois que j'étais confrontée en fait, à une difficulté. Et ça a été très, très difficile pour moi à intégrer. Et comme j'étais en CDD, d'un commun accord, on a arrêté en fait, notre collaboration. C'était très bien. À l'époque, j'avais déjà un enfant qui avait 1 an et demi. Et la maternité, pour moi, avait été aussi un enseignement très fort. Donc j'avais aussi besoin d'être plus en contact avec mon enfant et de le voir grandir et de lui transmettre des choses qui étaient importantes pour moi. Mais j'ai quand même réussi à négocier un bilan de compétences, ce qui est pas mal. Donc pour la première fois, je me suis retrouvée en face d'une psychologue, donc d'un spécialiste des émotions des humains, et qui, avec beaucoup de doigté, beaucoup de finesse, m'a mis en face d'un système qui m'a fait choisir ce métier-là, mais qui n'était pas forcément un choix identitaire, aujourd'hui je peux mettre ces mots dessus, et qui a su en fait me montrer d'autres aspects de moi qui étaient latents, mais qui n'étaient pas exploités, et qui pouvaient faire un métier. Il fallait vraiment que je mette en route quelque chose dans ma vie. J'étais en crise identitaire, j'avais fait un deuxième enfant entre temps, donc j'étais vraiment en pause parentale, mais je sentais très bien que mes enfants c'est très important, mais qu'ils ne seraient pas là tout le temps, et que j'avais aussi envie de développer quelque chose de très personnel et de me réaliser dans mon métier, parce que j'avais à cœur quand même, j'avais fait des études, j'ai des choses à offrir, à partager, je me sentais riche de quelque chose, mais je ne savais pas de quoi. Il se trouve qu'il y avait une amie qui était là, donc entre ma tasse de thé, 3 mouchoirs, des larmes, voilà, elle m'a écoutée et puis tout d'un coup elle me dit « Est-ce que tu connais la kinésiologie ?» Je lui ai dit « Non, la quoi ? Je sais pas. » Et j'ai été saisie d'un tremblement de tout mon corps à ce moment-là. Et déjà, je commençais à être un peu plus fine par rapport à ces signes un peu bizarres. Je lui ai dit « Non, je sais pas du tout ce que c'est. » Elle me dit « Mais moi non plus, mais il me semble que pour toi, ça serait très bien. » Voilà, donc après, des années après, j'ai appris que cette femme était très intuitive, on peut poser le mot de médium, hein, donc elle a canalisé certainement quelque chose pour moi. Le son, ça a toujours fait partie de ma vie en fait, mais je ne le conscientisais pas. Je me souviens, moi, je suis une tradition en fait, ma famille, du côté de ma maman, ils sont protestants, donc j'ai choisi aussi de faire un chemin dans cette tradition. Et nous, on a notre formation de la 6e à la 3e, donc on est un peu plus, on va dire, un peu plus mature pour écouter et comprendre ça. Et on avait toujours un passage où on chantait. Et je me souviens d'avoir atteint des niveaux de joie et de connexion incroyables. Et quand elle disait « Bon, on va y aller maintenant, ouvrez le bouquin catéchisme », je dis « Non, 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 non. On ne peut pas continuer là, il se passe un truc pour moi, voilà. » Et bon, ben, je suivais le groupe, mais je me souviens qu'il y a toujours eu des moments comme ça où pour moi, le son, c'est un moyen extrêmement rapide pour changer ma conscience et me relier à des plans plus profonds et inspirants que je peux nommer que spirituels. Et que ça a toujours été là. Mais voilà, ça n'a pas été nommé, ça a pas, voilà, personne ne m'a dit « Mais toi, tu chantes super bien, pourquoi tu fais pas des... je sais pas, que tu n'es pas dans une chorale ou tu prends... » Non, voilà, ça n'a jamais, ça jamais été là. Je pensais pas un jour que ça puisse être un métier autre que musicien, voilà, parce qu'on connaît beaucoup le métier de musicien, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique, et notamment toute la dimension thérapeutique et curative de la musique, je la connaissais pas à l'époque. Et en kinésiologie, on a à un moment donné accès à un équilibrage avec lequel on utilise, pour lequel on utilise des sons. Et on va tester quelles voyelles le corps de la personne a besoin pour faire ces sons. Et donc on testait le A, le O, le E, le I, le U, sans savoir que je rentrais vraiment dans une tradition très particulière qui sont le chant des voyelles. Et en fait, ce qui me frustrait beaucoup, c'était que c'était la personne qui devait chanter. Voilà. Et donc bon, ben, je l'invitais à chanter, et puis de temps en temps, il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à chanter, alors je venais un petit peu en dessous, comme ça, les aider. Et j'adorais quand le soin se dirigeait vers cette équilibration par les sons. Donc ça me plaisait, mais voilà. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique en kinésiologie, j'ai eu envie spontanément, en fait, d'émettre des sons à des moments particuliers pour harmoniser, pour libérer quelque chose, pour accompagner un pleur ou une émotion qui remontait. J'avais envie, je me disais, Emmanuel, mais calme-toi, qu'est-ce que tu vas encore vouloir chanter là au milieu, mais n'importe quoi, arrête-toi. Donc je me suis beaucoup frustrée. Et à la fin, quand même, je commençais à avoir beaucoup mal à la gorge. Et comme je suis quand même à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps et d'être en cohérence avec mes élans, mes envies, de me faire confiance aussi, parce que quand on est thérapeute, notre art thérapeutique se développe aussi au fur et à mesure de nos prises de conscience, de nos passages, de notre maturité, de ce qui se passe dans la vie, etc. Et là, j'ai dit au coup, oh, c'est bon, je vais chanter. Et en fait, j'ai chanté, je me souviens, c'était un homme. Et je me suis dit, oh là là, ça va être encore terrible. Et non, pas du tout, au contraire. Hein, c'est passé vraiment de façon très naturelle et ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Et pour la petite histoire, cet homme est devenu aussi sonothérapeute un jour. C'est venu de là. Et pour la première fois, j'ai dit, ok, je veux expérimenter avant. Je veux voir ce que ça fait, les sons. Et de façon volontaire, je ne suis pas allée chercher un enseignement ou une formation. Au contraire de ce que je faisais avant, c'est-à-dire que je me formais, j'appliquais. Et là, je dis non, ça vient de moi, j'ai envie de laisser émerger ça, de me mettre à l'écoute de ce qui se passe et de tester, de faire une expérimentation un peu sauvage comme ça. Et je me suis accordée une année d'exploration. Et après, je me suis dit, bon, c'est bon, là, je pense que je peux aller me confronter à un enseignant du son. En 2006, donc la thérapie par le son était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. Et sur internet, j'ai trouvé assez rapidement un homme qui s'appelle Emmanuel Comte, qui est français à l'origine, mais qui vit au Québec, et qui venait faire des formations en Suisse et en Belgique, mais pas en France. Et j'ai dit, ok, banco, j'y vais, c'est où? C'est en Suisse, allez hop, mes enfants étaient jeunes à l'époque. Je suis partie en Suisse et ça a été vraiment une révélation. Je me souviens avoir été bouleversée par la beauté des chants qui sortaient. Alors qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais chanté. Bien sûr, on n'avait pas de chef d'orchestre, pas de partition, pas de notes. Et de voir que finalement, quand on s'offrait à ce son, eh bien, on redécouvrait l'harmonie. L'harmonie en nous, autour de nous. Et plus haut, une harmonie divine, quelque chose qui nous transcende et qui nous transporte. Et en parallèle de mon envie de chanter quand je soignais, au cours aussi de mon travail personnel, j'ai retrouvé un vieux rêve que j'avais complètement oublié, qui était celui de jouer de la harpe. Le jour où quelqu'un m'a dit, ben voilà, il faut que tu fasses de la harpe, c'est vraiment important, j'étais tellement touchée. Et ça me touche encore. Je me dis, ok, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais je vais y aller et tout. C'était 2 ans après la découverte de la sonologie. J'ai cherché un professeur de harpe celtique. J'ai appris à ses côtés. Elle a été professeure aussi de chant lyrique, une belle canto. Et là aussi, c'était la révélation. Donc tout ça s'est emboîté à un moment donné. Donc j'ai amené la harpe au cabinet. En sonologie, on apprend à utiliser bien sûr la voix chantée, qui est notre instrument principal, mais aussi les bols chantants tibétains, les diapasons, d'autres instruments thérapeutiques qui sont fixés dans une gamme, c'est-à-dire c'est une échelle sonore qui est connue pour harmoniser les sons, qui ne demande pas de compétences particulières. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est cher à mon cœur, de dire que le son, la musique, elle appartient pas à des gens qui font des pratiques musicales ou d'instruments depuis qu'ils sont tout petits dans des conservatoires. Que la musique et le son fait partie de notre humanité, c'est quelque chose que nous avons besoin de retrouver. Et depuis une dizaine d'années, il s'est développé beaucoup d'instruments intuitifs qui permettent, sans connaissance ni du solfège, ni de la rythmique, ni des lois d'harmonie, ni tout ça, de vraiment se faire plaisir avec des instruments intuitifs pour soi, et pourquoi pas pour son bébé, pourquoi pas pour ses enfants, pourquoi pas pour qui a besoin. Voilà, et ça c'est vraiment, ça m'apporte beaucoup de joie. Et je sais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de remettre les gens sur leur vivant, sur ce qui est vivant à l'intérieur. Moi je dis toujours aux gens, qu'est-ce qui fait que votre cœur bat plus vite dans votre vie? Qu'est-ce qui rajoute de la vie à la vie? Voilà, ben allez-y. Voilà, prenez soin de ça, c'est important. Et de ressentir, voilà, ce battement, cette vibration. Et si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que si c'est là, depuis que t'es né, et que ça n'a pas fleuri quand t'avais 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, voilà, ou 40, 50 ans, mais si c'est là, c'est ta graine, elle va pousser. Donc un jour, tu auras à prendre soin de cette fleur qui s'est éclose dans ton jardin, et d'apprendre à la connaître, à la faire grandir, puis voir si elle n'a pas d'autres copines. Commencer à ressentir cette vibration, moi j'inviterais les personnes à aller dans un concert. Un concert avec des instruments qui ne sont pas sonorisés, mais de recevoir vraiment la vibration d'un instrument. Alors, sans forcément que ça soit un concert philharmonique, mais de ressentir la vibration d'un instrument vivant, d'un instrument qui n'est pas amplifié ou déformé ou masterisé derrière, mais le son, voilà. Ça, c'est vraiment écouter de la musique. La musique en direct, c'est vraiment important. Après, on a aussi toute une gamme de CD, de musique, de relaxation. On associe aussi beaucoup la musique quand on va se faire masser, ou quand on fait de la méditation, ou du yoga, quand on a une pratique comme ça de retour à soi. Très souvent, on utilise la musique. Donc, il y a plein de musiques qu'on peut écouter. Et après, comme la musique est évocative de quelque chose de spécifique, c'est la personne qui va chercher sa musique. C'est elle qui va dire « ça me touche ». Et vraiment de se faire confiance que vos cellules, elles vous diront voilà, « ça me va, ça me va pas. Oh, ça me touche dans mon cœur. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je pense qu'on a tous été émus aux larmes en écoutant le chant de quelqu'un ou une musique ou un moment particulier, ou quand on était jeune aussi, et que quand on réécoute une musique, c'est... Le son, c'est vraiment une empreinte auditive, émotionnelle, extrêmement ancrée, forte, très très forte. Et peut-être que pour démarrer cette sensibilité-là, d'aller peut-être un peu plus au concert, d'écouter de la musique. Et puis, il y a aussi l'adage qui dit « moi je chante dans ma voiture ou sous la douche ». Oui, vas-y, continue. Je dirais « vas-y, continue hein, ». Continue à développer ça, chante pour toi. Ronronne avec ton chat, si t'as un chat, ressens la vibration, venir au contact de ta peau, laisse-la rentrer à l'intérieur de toi. Écoute le vent dans les arbres, écoute le bruit de l'eau, écoute les oiseaux chanter, et sens, est-ce que ça te fait quelque chose, que ça te touche? Donc ça, on a déjà cette première imprégnation, qui est importante. Puis après, on a cette chance aujourd'hui de voir fleurir de plus en plus des bains de son. Par exemple, c'est un temps où la personne est allongée par terre, en relaxation, et pendant une heure, je vais utiliser différents instruments ou chanter. Et tout ça, c'est de façon complètement intuitive, inspirée par rapport à ce que je ressens des personnes, aussi bien sûr comment je suis à ce moment-là. C'est toujours, il y a toujours une double résonance. Et ça, ça peut être une première approche, tranquille, hein, en groupe, et de se laisser entrer en résonance. Justement, comme avec cette histoire de le corps est une grande oreille ou comme une peau de tambour. Voilà, me dire tiens, est-ce que j'ai envie de voir si mon corps peut rentrer en résonance avec ce que j'entends. Est-ce que c'est mes pieds qui vibrent? Est-ce que c'est ma tête qui vibre? Est-ce que là je suis complètement partie? Ça me parle pas du tout. Ou quand elle chante là, ça me fait un peu peur. C'est bizarre son truc. Voilà, de tester vraiment. Et puis après, de prendre une séance de sonologie, donc, où là, le sonothérapeute, il est vraiment dédié à la personne, où les bols chantants sont posés sur le corps de la personne, où on utilise des diapasons à poser sur des zones qui peuvent être soit des zones réflexes du corps ou des méridiens d'acupuncture, où là, on relance en fait la circulation énergétique via les méridiens d'acupuncture. C'est... voilà, je crois que c'est... se sentir appelé, puisque c'est le son, c'est une possibilité, c'est pas la seule, mais quand c'est celle-là, alors là, ça fait des merveilles, parce que c'est... voilà. Et puis, la plupart d'entre nous, en fait, ont des souvenirs anciens d'avoir été bercés par ses parents ou sa maman, ou d'avoir reçu des comptines enfantines. Le son de la voix de notre maman, c'est la première voix que nous entendons, et c'est la voix affective, c'est celle qui va nous relier au monde extérieur hein, quand nous naissons au monde. Donc il y a des empreintes qui sont fortes entre le son, l'amour, le lien. Et c'est ça en fait qu'on retrouve dans les pratiques de vocales, de son, de sonologie, de musicothérapie. Quand je reçois des gens qui ont pris rendez-vous pour une séance de sonologie, je suis amenée à accompagner différents niveaux de difficultés. Quelque chose qui est vraiment très pertinent, c'est quand une personne traverse un deuil. Quelquefois, utiliser des mots ou être dans la compréhension, c'est pas possible dans un premier temps. Mais par contre, accompagner en fait avec des sons harmonisés de façon non directe mais de façon passive et lui ramener en fait son corps, c'est vraiment important, c'est comme un baume sonore, voilà. C'est vraiment quelque chose qui adoucit et qui vient soulager des souffrances. Donc je pense particulièrement au deuil, mais il peut y avoir aussi des personnes qui restent choquées par des événements qui ont été difficiles. Donc on peut vraiment, avec la vibration, détendre le corps, ça c'est une première information, recharger aussi le corps énergétique. Donc on peut venir quand on a des problèmes de sommeil, hein, parce que le sommeil c'est vraiment le moment où on lâche pour aller se ressourcer. Donc comme la sonothérapie, c'est quelque chose qui va d'emblée faire un massage sonore, donc le corps va être relâché sans être touché, donc c'est différent du massage. Donc tous les problèmes aussi d'inquiétude, d'anxiété. J'ai eu l'occasion aussi d'accompagner des personnes qui avaient des douleurs récurrentes, qui n'étaient pas organiques, hein, qui ne cédaient pas à des traitements de la médecine conventionnelle, mais qui demeuraient là comme des ancrages. Par exemple des douleurs de cicatrices de césarienne par exemple, ou des ventres aussi de femmes enceintes qui ne se résorbent pas, où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, où il y a de renvoyer du son, voilà, à l'intérieur du corps. Ça nourrit, ça remet en route en fait la vie qui est à l'intérieur. Donc ça peut être bien pour les bébés. Pour les enfants hyperactifs, ils sont assez sensibles au son aussi, et ça leur permet de se détendre d'accéder à des états de décontraction qu'ils n'ont pas d'habitude parce que leur système de protection cède, parce que le son sécurise beaucoup. Après, des personnes qui souhaitent être comme un rituel de passage, voilà, ils veulent une séance de sonologie parce que c'est ça vient pour dire quelque chose, ça vient dire quelque chose d'important. Voilà, avant il y avait ça, maintenant il y a ça au moment de célébration. Il y a plein de possibilités. Je pense que c'est qu'on est vraiment tout au début d'une pratique de soins par les sons, au-delà de d'atténuer les souffrances, de faire une thérapie par les sons. Il y a un biologiste qui a décodé les protéines, Steinheimer. Il travaille dans des laboratoires, je crois que c'est NRS ou un truc comme ça. Il a décodé la musique des protéines. Pour lui, chaque protéine, il y a des bases, comme des notes, et il a fait des correspondances, et on peut écouter en fait la mélodie de la protéine du tournesol, par exemple. Ça existe. Il y a des viticulteurs ou des cultivateurs ou des éleveurs de vaches qui diffusent de la musique. Aujourd'hui, par rapport au développement des travaux de Steinheimer, ils ont mis en place la musique pour éloigner les insectes ou pour renforcer l'immunité des plantes. Les neurosciences le montrent de toute façon, c'est sûr, l'impact de la musique sur... la multiplication des connexions neuronales, que les musiciens vivent plus longtemps, en meilleure santé. Un chef d'orchestre, ils ont 90 ans, ils sont taqués. C'est sûr, ils se prennent des vibrations tous les jours, depuis 40 ans, je ne sais pas combien de temps. Ou les chefs de maître de chœur aussi. Chef de chœur, voilà, c'est pas maître de chœur. Chef de chœur devant 100 personnes qui chantent des messes ou des chants liturgiques. Oh, j'aurais dû être chef de chœur, ça aurait été pas mal. Ce n'est pas terminé. Mon esperluette du moment, c'est une femme que j'ai entendue ce matin sur France Inter. C'est Angélique Kidjo, une chanteuse africaine qui témoignait que dans sa famille, elle avait eu la chance d'avoir la parole libérée et qu'elle pouvait en fait exprimer qui elle était et parler de ses racines, parler de l'esclavage, parler de l'identité de la femme, qu'elle avait été éduquée par une maman qui était elle-même éduquée et qu'elle voulait transmettre ça, et elle avait choisi en fait le chant pour exprimer la parole libérée. Et quand je l'entendais parler, et je me disais, waouh, quelle grande femme c'est cette personne. Et elle disait, dans la maison, on peut parler. La parole était libérée. Ah, mais oui, mais c'est ça, je pourrais pas dire autrement. Quand la parole est libérée, Et elle dit, puisque la parole était libérée, j'ai pu dire qui j'étais. Oui, quand on chante, quand on parle, quand on exprime quelque chose par le chant, tout le monde sait qui on est. Parce que le chant, ça révèle ce qu'on est. Et elle disait, je suis dans une famille où la parole est libérée, et grâce à ça, j'ai su qui j'étais. Génial. Ma conclusion, ça serait vraiment d'inviter la musique au quotidien, chaque jour, chez chaque personne. C'est ça. Mais j'ai l'intime conviction que le chant, comme la danse, en fait partie des moyens, depuis qu'on est monde, peut-être, depuis qu'on est, je sais pas, les hommes de Cro-Magnon, c'est déjà de la musique, chanter, danser, ça fait partie de notre humanité. Et j'aime bien pouvoir redonner cette possibilité et de sortir, de jouer au concert, ou lui, il a fait ci, il a fait ça. Non, tu peux chanter. Tu peux dire, si t'es heureux, tu fais un beau A bien vibrant et tout, tes cellules, elles vont être super contentes, quoi. C'est bon. Et tu peux vraiment l'offrir. Pour moi, la sonologie ou le son, c'est un art de la célébration. Et je me célébrerai. Ça ouvre vraiment une dimension extraordinaire. Et la musique, c'est un vrai compagnon de vie.
Merci Emmanuel, tu nous as fait vibrer au son de ta voix douce et méditative, et ce n'est pas terminé puisque j'ai eu le plaisir de t'écouter à la harpe en live à la fin de l'interview. Le morceau fera donc office de musique de fin pour cet épisode. De quoi terminer en beauté et vous permettre de tenter de ressentir les vibrations de ce magnifique instrument. Si vous avez des questions sur la sonothérapie, n'hésitez pas à commenter cet épisode ou à suivre Emmanuel Le Carreau sur son site internet et sa page Facebook. Pensez également à mettre 5 étoiles si vous écoutez Esperluette sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide énormément. Vous pouvez également suivre Esperluette sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Le mois prochain, Esperluette se mettra en mode Festival of d'Avignon, avec un nouveau format d'interview d'artistes festivaliers et un épisode dédié au Festival des Petites Formes qui se déroulera à Montfavet également en juillet. Avant de vous quitter, je vous propose donc de vous poser dans un endroit calme, de mettre votre casque sur vos oreilles et de profiter de quelques minutes de bonheur musical et des vibrations de la harpe d'Emmanuel. À une prochaine, je l'espère, Luette, évidemment.